Session sur la personne par le père Philippe le 10 juillet 1989 à Saint-Jodard.
Je reprends rapidement quelques questions posées du reste. Ça continue dans le sens, on l'a vu. Pourquoi le philosophe regarde-t-il en premier lieu l'homme ? L'homme n'est-il pas une réalité parmi les autres ? Je voulais tout de suite, et ça correspond à ça, dire que la philosophie réaliste, parce que ce que nous voulons faire, c'est une philosophie réaliste. Qui part de l'expérience humaine. Une philosophie réaliste regarde l'homme, s'intéresse à l'homme. Je crois, voyez, que ce serait une explicitation très nette par rapport à la philosophie aristotélicienne. Saint Thomas, pour situer, hein, voyez bien, historiquement, il faut toujours mettre les vieux Grecs. Nous avons donc Aristote, et puis avant, son père, Platon, et son grand-père, Socrate. Eh bien, cette trilogie, Socrate, Platon, Socrate, Génoïte, Platon, et Platon, Génoïte Aristote, d'une façon assez particulière, avec un petit tremblement de terre. Parce que on ne peut pas dire que le fils est semblable au père. Mais il y a les trois. Ça, c'est très vrai. Et qu'on ne peut pas comprendre vraiment Aristote sans regarder Platon. Et on ne peut pas comprendre Platon sans regarder Socrate. Et Socrate est en réaction violente. Socrate n'a rien écrit. En réaction violente contre les sophistes. Les sophistes, ce sont des rhéteurs. Oui, c'est des politiciens rhéteurs. Et pour eux, il n'y a rien de plus parfait que la rhétorique. Et la rhétorique consiste à persuader. C'est ça qui est important pour eux, c'est persuader, la persuasion. Peu importe la vérité, il n'y a pas autre chose à la vérité. Pour arriver au pouvoir, oui, Athènes commence à connaître un âge démocratique, la démocratie. Comme Athènes commence à connaître la démocratie, il y a donc des élections. S'il y a des élections, il y a des propagandes. Et la rhétorique commence à jouer un rôle important. Et Socrate, alors, face aux sophistes, dit « Connais-toi toi-même. » Et la philosophie a commencé par la connaissance de l'homme. Il ne faut pas l'oublier. C'est la connaissance de l'homme. Connais-toi toi-même. Et connais les dieux. Connais ta finalité. Se connaître. C'est pour ça que la philosophie en Grèce a commencé par une éthique. Se connaître, l'éthique. Platon, disciple de Socrate pendant 8 ans, cet aristocrate qui était Platon, il était de sang impérial. Et il avait 2 oncles qui étaient dans la politique, qui soignaient très bien leurs petits-neveux. Et Socrate a arraché Platon à l'influence des oncles. C'est toujours terrible de faire ça. Ça vous retombe sur la tête. Et c'est retombé sur la tête de Socrate. C'est bien qu'il a dû voir la ciguë. Parce qu'il corrompait la jeunesse. Il l'enlevait de ce point de vue politique. Pour l'appeler à la contemplation. Platon, c'est un contemplatif. C'est un sage. Vous voyez, la sagesse. La sagesse, c'est la contemplation. Et Platon a eu toujours, toute sa vie, cette espèce de nostalgie du philosophe roi. C'est lui. Parce qu'il y a les deux choses en Platon. Il y a le disciple de Socrate qui est toujours resté. Et puis, l'atavisme gouvernait. Et il y a les deux. Et on ne comprend vraiment Platon que si on voit les deux. Et Platon, c'est le philosophe de l'âme. Ça, c'est aussi très important. C'est le philosophe de l'âme. On croit de plus en plus à une influence de l'Inde sur Platon. Et les grandes traditions de l'Inde montrent la grandeur de l'âme. Comme toutes les traditions religieuses. Le mot psyché, le mot âme, n'est pas un mot proprement de la philosophie grecque, dit Breyer, un bon philosophe, un bon historien de la philosophie grecque. C'est Platon qui a introduit l'âme dans la philosophie pour montrer que ces traditions religieuses avaient un sens. Et pour Platon, l'âme, c'est l'âme contemplative. L'âme est divine. Elle est proche des dieux. À cause de la faute, elle s'est unie à un corps. Il y a une chute. Oui, la faute originelle. Il y a une chute. Alors elle est unie au corps. Mais unie au corps en pénitence. Et donc tout le rôle de la philosophie, ce sera d'essayer de vivre au-delà du corps. Le corps est mauvais. Il faut venir au-delà du corps. Donc réfléchir d'une façon tout à fait intérieure pour redécouvrir ce qu'il y a de plus profond dans l'âme, son aspiration contemplative. Et la philosophie, c'est constamment une expérience de sortie du corps pour contempler. Une méditation qui nous permet de quitter un peu notre corps. Et la philosophie doit nous permettre de quitter plus vite notre corps. Une bonne méditation sur la mort, constante, pour être libéré du corps. Le corps, c'est le tombeau. Il y a un petit jeu de mots grec sur soma et le tombeau, c'est le même mot. Et le corps, c'est le tombeau de l'âme. Ça dit bien la chose. Tant qu'on est sur la terre, on vit dans un sépulcre. On ne voit pas la réalité. Les sens nous empêchent de voir la réalité. D'où le mythe de la caverne. Et le mythe de la caverne, selon Heidegger, est capital pour Platon. Et je crois que c'est vrai. Heidegger a bien compris que c'est le mythe de la caverne qui est la pointe dominante de tout Platon. On est dans une caverne. On voit les choses de l'extérieur. On ne les voit pas de l'intérieur. Et le contemplatif, il voit tout de l'intérieur. Alors que les autres voient de l'extérieur. Ça, c'est propre de Platon. Platon a eu 20 ans Aristote comme élève. Aristote, très très vite, je crois, a compris que Platon, il idéalisait. Il n'avait pas les pieds sur le réel. Il platonisait. Ce que c'est que platoniser, hein ? Eh bien oui, il était beaucoup trop confiant dans l'âme contemplative. Il fallait revenir au réel. Et Aristote n'hésite pas de dire qu'il est plus proche de Socrate que Platon n'est proche de Socrate. Et c'est le retour au grand-père. Toujours. les alliances des grands-parents avec les petits-fils. Au moment des crises, c'est comme ça. Des alliances beaucoup plus profondes. Et c'est vrai que Aristote revient beaucoup plus au réalisme de Socrate. Il reprendra une éthique personnelle. Alors que pour Platon, l'éthique n'était que politique. C'est très très curieux. Alors, il n'y a rien de plus loin qu'une éthique politique que l'éthique de Socrate. Eh bien, Aristote reprend une éthique personnelle. Ça, c'est très très net. Et il montrera qu'il y a aussi une éthique politique, mais elle est seconde. Et alors, Aristote montrera que les idées innées de Platon, c'est un mythe. L'homme naît avec le besoin de tout acquérir. Tandis que pour Platon, l'homme possédait tout avant d'être uni au corps. Et donc, il n'y avait pas au sens strict un enseignement, mais il n'y avait que la réminiscence. Rappelez-vous de tout ce que vous possédiez avant. Dans votre âme, il y a des richesses infinies qui sont enfouies. Découvrez-les. Et essayez de les découvrir le plus possible. Mais au fond, la philosophie était une réminiscence. Pour Aristote, on devient philosophe. On est tous capables d'être philosophes. Tandis que pour Platon, seules les âmes bien nées pouvaient prétendre à la philosophie. Il y a un réalisme dans Aristote qui est à ce point de vue-là merveilleux. Voilà les trois grands. Les trois grands de la philosophie grecque. Ensuite, vous avez, comme toujours, après un sommet, il y a une espèce de détente. Alors ça part dans tous les sens. Vous avez l'épicurisme, le stoïcisme, le platonisme qui continue, l'aristotélisme qui continue. Et puis, progressivement, vous trouverez des critiques, le pyrrhonisme qui va naître. Vous avez cinq grands courants qui vont naître à partir d'Aristote. Très curieux. Hein. Au plan éthique, vous voyez, on revient à Socrate. Et tous, d'une certaine manière, dépendent de Socrate. Et tous, d'une certaine manière, veulent dépendre de Socrate. Mais c'est l'avantage. Socrate n'a rien écrit. Alors on est tous de lui. On se met dans sa tradition, quoi. Qu'est-ce qu'il prétendra être plus Socrate? Il n'a pas écrit. Et en plus de ça, il y a trois Socrates. Dans le même homme. Parce qu'il s'est converti, Socrate. Alors dans tous les convertis, il y a avant et après. Il y a avant et après, c'est sûr. Avant la conversion, Socrate était peut-être sophiste. Puis, il est devenu soldat avec Xénophon. Pour se purifier d'être sophiste. Tous les sophistes, envoyez-les être militaire, c'est rien de tel, pour les corriger du sophisme. Puis après, c'est la sagesse. Il a quitté son métier. Il est capitaine. Puis il est devenu... Il y a des chances, j'en sais rien. Je dis trois comme ça, parce que de fait, il y a trois physionomies de Socrate. Et de là, voilà. Alors, ensuite, Plotin. Je vais très vite, mais je cite ça parce que la philosophie grecque est terminée dans une philosophie mystique. Il y a beaucoup d'analogies entre Platon et Hegel. C'est pour ça que peut-être la philosophie occidentale s'achève avec Hegel. C'est très possible, ça. C'est très très curieux. Hein. C'est assez... On ne peut pas nier que Plotin disciple de Platon, mais entre les deux, il y a le stoïcisme. Le stoïcisme qui a joué un rôle très important. Le stoïcisme se termine dans une éthique, avant tout. Il se termine à Rome. C'est intéressant pour nous. En l'an 50 après Jésus-Christ, il y a Épictète. Épictète, l'esclave devenu philosophe. Alors il a tout pour lui. Vous voyez, comme aujourd'hui. L'ouvrier est devenu philosophe, il a tout pour lui. Ça avait commencé avec les aristocrates, et ça se termine par l'esclave. Pour montrer que la philosophie grecque, vous voyez, quand on dit la philosophie grecque, c'est très multiple. Hein. C'est très très multiple. Depuis Socrate et avant Socrate, les pré-socratiques. Mais ici, je prends très rapidement. On verra chez eux, qu'est-ce qui domine en philosophie grecque? Une éthique, une politique, une mystique. C'est ça qui domine. Il y a un moment donné, avec Aristote, qui lui aussi va tendre vers la sagesse, il y aura une philosophie première qu'on va appeler métaphysique. Mais ce n'est pas ça qui domine en philosophie grecque. En philosophie grecque, ce qui domine, c'est l'éthique. Le problème de l'homme. Connais-toi toi-même. Ça, c'est très net. Mais l'homme, avec ses diverses dimensions, un homme engagé dans la politique, un homme purement contemplatif, un homme qui essaie de transformer l'univers. Oui, mais c'est l'homme qui est au centre. Mais jamais, en philosophie grecque, on dira que la philosophie, c'est une anthropologie. Ça ne se dit pas. Le philosophe cherche la vérité. Et là, Heidegger a raison. Le philosophe cherche, le philosophe grec, cherche la vérité. La vérité sur l'homme, connais-toi toi-même. La vérité sur l'univers, la vérité au plan moral, éthique, la vérité par rapport aux traditions religieuses sur Dieu. Ces traditions religieuses sont-elles des mythes? Sont-elles quelque chose de vrai? C'est la recherche de la vérité. C'est pour ça que Heidegger dira que toute la philosophie grecque, qui est quand même quelque chose de très important, Plotin, deuxième siècle après Jésus-Christ. Oui, deuxième siècle après Jésus-Christ, à Rome aussi. Ici, c'est Athènes. D'Athènes à Rome. Géographiquement, c'est intéressant de voir ça. Voyez, il y a quand même un pôle de centre qui a changé. Alors c'est curieux. Vous voyez, quand vous pensez au christianisme, on quitte Jérusalem pour venir à Rome, le lieu de la pensée grecque. On parlait grec à Rome. On parlait aussi latin. Mais on parlait grec. Les gens cultivés parlaient grec. Ça, c'est net. C'est tout l'hellénisme. La culture était grecque. Et c'est important de voir que la philosophie, de fait, cherchant la vérité, va se polariser sur la recherche de l'homme. L'âme humaine et la personne. Nous y reviendrons dans un instant. L'âme humaine et la personne. Mais avec Platon, c'est l'âme. Platon ne parle pas de la personne. Les premiers qui vont parler de la personne sont les stoïciens. Et Aristote, lui, parle de l'homme. Platon, âme, homme. Et Socrate, les vertus. C'est l'homme des vertus. Contre les sophistes. Qui sont des gens qui ne sont pas vertueux. Et qui ne cherchent que le profit. Qui ne cherchent que l'efficacité. Face à cette efficacité des sophistes, ils cherchent ce qui qualifie l'âme, les qualités de l'âme. Parce que la vertu, au point de vue grec, c'est avant tout les qualités. On devrait traduire comme ça aujourd'hui. Parce que vertu, ça a perdu tout son sens. Hein. Tandis que quand vous dites les qualités, on parlera de valeur, de qualité. C'est ça la vertu. Ce que Socrate cherche, c'est une âme qualifiée, une âme de noblesse, qui a son sens de la vie. Alors, on cherche la vérité, le logos grec, face au moutos. Au mythe, le mythe des traditions religieuses. Et on peut dire que toute la philosophie grecque, le développement de la philosophie grecque, c'est la recherche de la vérité et du logos, très difficile à traduire. Chercher l'intelligibilité profonde. Chercher la signification profonde des choses. Toute la philosophie grecque se développe dans un climat de tradition religieuse où le mythe, le moutos, a une grande importance. Et c'est la conquête du logos sur le mythe. C'est vrai de dire ça. C'est la conquête de la vérité. Sur l'aspect tradition. Et ce point de vue-là, c'est très intéressant, parce que ça montre combien tout ça est actuel. Et nous vivons de tradition. C'est vrai. Plus ou moins bonne, mais de tradition. Très peu vivent du logos grec. Très peu réfléchissent. Très peu ont une pensée personnelle. Envie de tradition. Bon, alors, vous voyez, pour le sujet qui nous intéresse, nous voyons que toute la philosophie grecque, cherchant la vérité, va de fait se préciser autour de la recherche de l'homme. L'homme cherchant la vérité, l'homme face à Dieu. L'homme face à son destin. L'homme face à l'univers. C'est les grandes dimensions de la philosophie. Et on a trois grands moments. L'âme, Platon. L'homme, âme et corps. Et les stoïciens, la personne. La personne humaine. Et avec Plotin, on peut dire la personne humaine unie à l'un suprême qui est Dieu, qui est Zeus. C'est comme ça qu'il l'appelle, hein, c'est Zeus, le Dieu suprême. Zeus, c'est le Dieu suprême. Et l'un, pour lui, c'est le Dieu suprême. Et tout son effort, c'est de montrer comment l'homme peut-il s'unir à Dieu. C'est pour ça que Plotin C'est une philosophie mystique. Second moment de la pensée philosophique, c'est la foi chrétienne qui arrive. Et qui arrive jusqu'à Rome. Et qui rencontre tout de suite les stoïciens. Tout de suite. La première rencontre, c'est la foi chrétienne et les stoïciens. C'est pour ça que les premiers pères de l'Église sont tous très imprégnés de stoïcisme. Puis, ce sera Plotin, puis Platon, puis Aristote, avec saint Thomas. Vous voyez, le climat sera tout à fait nouveau. Ce sera face à la foi que devient la pensée philosophique. Est-ce que la foi supprime la recherche philosophique? Est-ce que la foi s'oppose à la recherche philosophique? Est-ce que le croyant condamne la philosophie? Est-ce que la philosophie nécessairement nous conduit à Zeus? Or, le Seigneur, ce n'est plus Zeus, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Comme dit l'Apocalypse, c'est le Verbe de Dieu incarné. Alors, est-ce que la philosophie est mauvaise pour un chrétien? On comprend très bien ça. Ce problème-là se pose très, très nettement. Faut-il être un croyant pur sang et uniquement croyant? Ou faut-il comprendre? Il faut encore parler le langage des hommes. À côté de nous, il y a des païens. Alors, ce sera tout le grand problème de la théologie. J'en parlerai ce soir, hein. J'en parle pas maintenant. Et je verrai dans la théologie le problème de la personne. Mais je note bien, et comprenez bien, je note bien que la personne est apparue en philosophie avant d'apparaître en théologie. Parce qu'on est tenté de dire, et il y a quelque chose de vrai, que le problème de la personne, c'est le problème typique de la philosophie chrétienne. Il y a quelque chose de juste. J'essaierai de vous le montrer ce soir. Troisième moment, à la tyrannie théologique. Les théologiens sont vite des tyrans. Hein. Vous savez bien, le dogmatisme, hein, comme on dit aujourd'hui, on voit très bien ce que c'est. Hein. Face à cette emprise du théologien qui possède la vérité, puisqu'il a la foi. Donc il est en contact direct avec Dieu. Le philosophe veut redécouvrir l'autonomie de la philosophie. Et ce sera le problème de Descartes. Je le cite parce que tous les Français sont cartésiens. Plus ou moins. Ici, pas beaucoup. Parce que cette philosophie cartésienne, elle lutte contre la théologie. Descartes ne cherche plus la vérité. Il cherche avant tout la certitude. Et le problème se déplace. La foi nous donne des certitudes absolues. Est-ce que la philosophie peut nous donner des certitudes? On voit très bien comment le problème essentiel face à la foi, face au moutos des traditions religieuses, on cherche la vérité. Face à la foi qui nous donne la vérité, on essaie de retrouver une certitude humaine, philosophique. C'est pour ça que le problème de Descartes, c'est avant tout ça, c'est la certitude. Et la vérité est seconde. Elle est importante, elle garde sa valeur. Et le problème de l'homme ne sera plus le problème dominant, c'est le problème de la certitude. Puisque c'est la certitude, nécessairement, le problème de la critique devient très important. Et c'est vrai, certitude et critique, ça se tient. Tandis que la vérité n'a pas besoin de critique, directement. La vérité se tient par elle-même. La certitude, il faut bien qu'elle soit de plus en plus forte. Alors, il y a la critique. Et la critique est première pour consolider la recherche de la certitude. C'est très curieux, Descartes. Hein. C'est un homme très, très, très mystique. Il faut lire ce que Sartre dit sur Descartes, parce qu'il l'a très bien pigé. Alors, il est très méchant, comme toujours, il est malin, Sartre. Alors Sartre dit, si Descartes était de notre temps, il serait athée. C'est-à-dire, il serait disciple de Sartre. Oui. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand que d'être disciple de Sartre. Il serait athée. Il y a quelque chose de juste, du reste. Hein. C'est pas bête. Il a bien saisi la fragilité de Descartes de parler d'une idée d'infini. Pour Sartre, l'idée d'infini n'existe pas. Il n'y a pas d'idée de Dieu. L'idée d'infini, comme l'idée de Dieu, c'est contradictoire. Qui dit idée, dit quelque chose de fini. Et donc, il n'y a pas d'idée d'infini. Ça, c'est... Vous voyez, c'est intéressant de voir comment Sartre regarde Descartes. C'est dans le commentaire de Sartre sur le discours sur la méthode. L'édition de la liberté, des philosophes de la liberté. Alors, on a repris tout Descartes. Et là, il y a une petite préface très belle. Très astucieuse. C'est une des choses les plus astucieuses de Sartre. Il attaque comme ça Descartes. Alors, on peut dire de Descartes à Hegel. Il y a quelque chose de commun. C'est que l'idée devient première. L'idée devient première. Cogito, c'est premier. Ergo sum. Cogito, je suis. N'est-ce pas? Vous comprenez que le je suis est second par rapport au cogito. Nous savons tous ça. Tout bon français, c'est cogito ergo sum. Il répète ça après Descartes. Je pense. Et voyez pourquoi je pense? Parce que ce qui est plus certain, c'est que je pense. À quoi? Ça, c'est incertain. Mais je pense absolument certain. Je pense. En réalité, c'est je pense à moi. C'est ce qui est plus certain. Parce que quand je pense à moi, je suis absolument tranquille. Personne ne peut me déloger. Ce qui est plus certain, c'est que je pense à moi. Et c'est vrai, ça. Quand vous pensez toujours à vous, toujours relative à vous. Alors quand on pense l'infini, vous comprenez, je suis infini. Puisque je pense à l'infini, je suis infini. c'est très, très extrêmement curieux de voir cette petite révolte de Descartes. Tu restes, Descartes le dit expressément, qui tourne le dos à Aristote. Pourquoi ? Parce qu'il dit, au point de vue des interrogations, Aristote cherche d'abord ce qui est. Est-ce que cela existe ? Première interrogation. Puis, qu'est-ce ? En grec, le eis esti et le ti esti. Eh bien, voilà l'ordre d'Aristote. 1, 2. Et Descartes dit, c'est l'inverse. 2 devient 1 et 1 devient 2. Oui, il inverse l'ordre des interrogations. Et le dit expressément. Ça qui est intéressant. Donc là, il tourne le dos à Aristote. Il en est conscient. Et ça fait qu'à partir de Descartes, il y a une nouvelle philosophie. Et les pères jésuites ont demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie. C'est Gouillet qui dit ça, qui connaît très très bien, connaissait très bien Descartes. Et je me souviens une conférence qu'il avait fait dans le temps au Saulchoir, c'était très intéressant. Il dit, mais la nouvelle théologie, mais c'est vieux. C'est depuis Descartes. Les théologues, les pères jésuites avaient demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie dans sa perspective à lui. Et Descartes a commencé par faire une théologie de l'Eucharistie. C'est aussi très très joli. De commencer sa théologie par l'Eucharistie. Alors, il faut lire ce traité-là. C'est en latin, mais c'est très beau. C'est tout à fait fou. Et c'est pour ça qu'il n'a pas continué. Parce qu'il serait fait taper sur les doigts par l'Église, comme il voulait être quand même catholique. C'est très très curieux de voir ce besoin de faire une nouvelle théologie. La théologie cartésienne qui ouvrait quelque chose de nouveau. Et alors on peut dire, voyez, que cette philosophie des idées va jusqu'à Hegel, avec quelques petits entre deux, hein. Il n'y a pas que des cartésiens, il y a des anti-cartésiens, mais on découvre à partir de là une philosophie nouvelle qu'on va appeler l'ontologie. Bien, dans l'ontologisme, la question qu'est-ce l'idée, la signification de l'idée, est première avant de savoir si cette idée existe. Donc on a une philosophie des possibles. D'où la philosophie du futurisme, la futurologie. Les possibles. J'imagine. Je rêve. Regardez ce qu'est la personne chez Hegel. Elle est comme volatilisée. C'est tout. C'est la philosophie du tout. Hegel s'identifie à Dieu. Donc c'est le tout. Et alors, après Hegel, on a toutes les idéologies athées. Donc toutes les philosophes, toutes les idéologies athées. Je peux effacer. faut avoir ce petit tableau, vous voyez, toujours devant les yeux. Quand on regarde un problème aussi central que la personne, il faut voir ça. Alors, je dis tout de suite, les idéologies athées, toutes mutilent la personne. Et à partir de ces idéologies athées, on parle d'anthropologie. Le premier qui a parlé d'anthropologie, c'est Kant. Kant se situe entre Descartes et Hegel. Kant s'oppose à Descartes, mais ne va pas assez loin pour redécouvrir un réalisme. Alors il est un intermédiaire, c'est très curieux. Et ce qui est le plus intéressant dans Kant, c'est l'éthique. Ça c'est sûr. Et la politique, d'une certaine manière. C'est ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui est le plus positif. Et Kant, c'est la critique et l'éthique. Et Hegel, c'est celui qui va tout reprendre à partir des idées. Alors, à partir de Hegel, il y a un éclatement de la philosophie qui va se faire. Ça va repartir dans tous les sens. Avant Hegel, après Hegel. Et les théologiens seront très séduits par Hegel. Et essaieront de faire une nouvelle théologie. Pannenberg. Une nouvelle théologie à partir de l'hégélianisme. Et ce sera la nouvelle vague des théologiens. Donc ça, c'est le tableau général. Donc, je peux dire que la philosophie est centrée sur le problème de l'homme. Je crois. Pour Heidegger, c'est très très net. C'est centré sur l'homme. Alors, on va essayer de montrer ici les deux manières d'être centré sur l'homme. La manière réaliste, à la manière d'Aristote. On est centré sur l'homme. L'homme étant le vivant le plus parfait. L'homme a ce privilège d'une autocritique. C'est la réalité la plus parfaite. L'homme peut réfléchir sur sa propre vie. L'homme peut s'orienter. Le vivant le plus parfait. Et parce qu'il est le vivant le plus parfait, il est l'être le plus parfait que j'expérimente. Il est la réalité existante la plus parfaite que j'expérimente. C'est vrai. Regardez le chien. C'est difficile de savoir ce que le chien cogite quand il vous regarde, quand il pleure. Difficile. Une vache qui regarde le TGV passer, qu'est-ce qu'elle dit? Elle applaudit. Elle bondit. C'est sa danse. C'est un peu lourd, mais ça fait rien, c'est sa danse. Tellement être heureux de voir le TGV passer. Ou effrayé, je sais pas. Ça peut s'interpréter différemment. L'homme est la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter. Pour être un philosophe réaliste, c'est net. Puisque je n'expérimente pas Dieu au sens absolu. Je découvre, au plan philosophique, hein, je découvre la possibilité d'une existence première. Où je découvre la nécessité d'une existence première, d'un être premier. Mais je n'ai pas l'expérience. Pour un philosophe qui part des idées et non pas de l'expérience, parce qu'en réalité, c'est là les deux sources, où vous partez de l'expérience, où vous partez de l'idée. Pour un philosophe qui part de l'idée, ben, nécessairement, je m'enferme dans mes idées, dans mon vécu. Et donc, l'homme est au centre de la philosophie. Mais je crois que je puis dire, hein, qu'il y a deux grandes développements de la philosophie où je pars de l'expérience dans la recherche de la vérité. Et l'homme est la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter. C'est le sycomore du philosophe. Hein? Vous voyez bien, sycomore, petit Zachée, qui était tout petit, il monte dessus. Je monte sur l'homme en tant que philosophe. Je regarde l'homme. C'est plutôt que de regarder l'hippopotame. Je peux aller plus haut. Je monte sur l'homme. J'expérimente l'homme. Et c'est là que j'atteindrai la vérité la plus parfaite. Donc l'homme est au cœur de toute la philosophie. D'une philosophie réaliste. D'une philosophie idéaliste. Elle part des idées. Elle part des idées. Si je pars des idées, j'ai l'idée d'infini. Et l'homme encore, l'homme pensant, je dirais l'homme pensant, c'est l'homme pensant qui intéresse le philosophe. Et uniquement l'homme pensant, la cogito, la dialectique. Sont mes idées. Alors les idées viennent de l'homme. Mais voyez, alors, je donne tout de suite ça, parce que ça, c'est très important, de comprendre la différence d'une philosophie réaliste et des idéologies. Le logos des idées, hein, idéologie, c'est le logos des idées. Donc c'est la recherche des idées. C'est qu'une philosophie réaliste est au service de la vérité. Et de l'homme. Puisqu'une philosophie réaliste respecte la réalité. Tandis que dans une idéologie, je mesure l'homme. Et l'homme est au service d'une idée. Ça, ça me semble capital comme distinction à faire. Et vous ne comprendriez que ça. Dans cette session, ça vaudrait la peine. Ça, vous pouvez le comprendre tout de suite. Il suffit d'avoir un tout petit peu d'intelligence. La philosophie est faite pour éveiller l'intelligence. Hein. Je suis là pour souffler, 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 pour qu'il y ait un petit feu qui s'allume. Parce que d'habitude, il y a tellement de poussière, tellement de bois sec, tellement d'humidité que l'intelligence est complètement chloroformée. Alors on dort, on est des somnambules. On dort. Alors le philosophe est fait pour réveiller l'intelligence. On est tous intelligents, mais on dort beaucoup. On est endormi, chloroformé. Le philosophe est au service de l'homme pour lui permettre de découvrir la vérité, pour lui permettre de découvrir ce qu'est l'homme, la richesse de l'homme, la plénitude de l'homme, sa personne. Tandis que l'idéologie mesure l'homme. C'est pour ça que les idéologues deviennent toujours des tyrans. Leur idéologie est plus que tout. Et c'est très important de voir que l'idéologie ne cherche pas la vérité, mais la certitude. Je suis certain et je suis la mesure des autres. Quand je connais quelque chose, parce que je suis plus parfait que les autres, donc je suis cause exemplaire. Toute espèce d'idéologie est toujours tyrannique. Tandis qu'au contraire, une philosophie réaliste laisse toujours passer devant l'expérience, l'homme qui expérimente. Et je reviens toujours à l'expérience. Donc voilà les deux grands aspects. Et vous voyez que l'homme est bien au centre. On verra progressivement. Alors je vous dis tout de suite, je laisse tomber les idéologies. Je laisse tomber. Royalement, ça m'intéresse beaucoup parce que les idéologies m'obligent d'être plus philosophe. Le monde d'aujourd'hui est conduit par les idéologies. Les idéologies de droite ou les idéologies de gauche. Dans Hegel, il y a une idéologie de droite et il y a une idéologie de gauche. Je ne veux être ni inféodé à une idéologie de droite, ni inféodé à une idéologie de gauche. Du reste, les idéologies tuent le philosophe. Le philosophe est toujours en lutte contre les idéologies. Toujours. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons sept grandes formes d'idéologie athée. Et nous avons une idéologie de droite. La philosophie hegelienne, Hegel lui-même. C'est une idéologie de droite, puisqu'il nie pas Dieu, il s'identifie à Dieu. Et c'est le boa. C'est très extraordinaire. Donc c'est l'exaltation de l'esprit qui est poussée jusqu'au bout. Il n'y a plus de place pour autre chose. Quelque chose de très intéressant à ce point de vue-là, c'est que l'idéologie de droite et l'idéologie de gauche impliquent un ontologisme, c'est-à-dire une philosophie immanente qui ne découvre le transcendant qu'à partir de l'immanence et qui ne respecte pas totalement la transcendance de l'être premier. On me pose comme autre question, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal ? Qu'est-ce qui distingue l'homme du robot ? C'est que l'homme est capable de se diriger lui-même, raisonnablement, par l'esprit, dans la liberté de l'esprit. Tandis que l'animal se conduit par l'instinct, comme une brute, puisqu'il est brut. C'est l'instinct. L'homme sait qu'il a des instincts. Il le sait. Il sait qu'il a des passions. Mais il sait qu'il est capable de les dépasser. Et ce sera tout le problème, voyez, de la personne humaine. La personne humaine, c'est justement le dépassement des passions, des instincts, pour découvrir quelque chose qui va plus loin. Quelque chose qui est justement la découverte de la finalité de l'homme. L'homme est fait pour ça. Découvrir qu'il y a en lui l'esprit. Et le robot, c'est celui qui est fait par l'homme à l'image de l'homme et qui ne peut tendre que vers l'efficacité. Et l'animal est plus noble que le robot puisqu'il tend vers ce que lui donne son instinct. Qui n'est pas spirituel mais qui est naturel. Et le robot ne regarde que l'efficacité. Et on pourrait dire que l'homme, quand il est vraiment homme, et le philosophe cherche à faire que l'homme soit véritablement homme, l'homme, quand il est véritablement homme, cherche sa fin propre, qui est d'aimer quelqu'un d'autre. Et dans la mesure où il peut le découvrir, il essaie d'adorer et de contempler son Créateur, son Père. Ça, c'est ça qui finalise l'homme. L'homme qui se ramène à l'animal cherche une fin instinctive de jouissance. Satisfaire ses instincts, satisfaire ses passions. Et le robot, c'est l'homme uniquement utilitaire. De fait, voir ces trois grands niveaux de finalité, une vraie finalité, aimer un autre homme. Aimer en recherchant uniquement le plaisir et la jouissance, l'amour de soi. Et dernier degré, chercher ce qui est utile. C'est le dernier degré. L'homme qui se ramène uniquement au robot, il est bon uniquement à une certaine efficacité, très limitée, mais certaine efficacité. Alors, après vous avoir rappelé que la philosophie regarde l'homme, nous allons tout de suite, si vous voulez, entrer dans le problème de la personne. C'est l'heure. comme ça, on est tout de suite proche du problème de la personne. Nous verrons ce soir, dans une perspective théologique, puisque la théologie a joué un rôle très très grand pour ce problème de la personne. On essaiera de comprendre ce qu'est la personne pour saint Thomas.